Mosaïque.
La radio Isanganiro traite une fois le mois les questions de la région des Grands Lacs.
Mosaïque.
C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia.
Mosaïque.
Bonjour ou bonsoir, chères auditrices, auditeurs de la radio-télévision Isanganiro. C'est le moment de suivre l'émission Mosaïque qui a comme thème aujourd'hui vivre ensemble et cohésion sociale, l'exemple de la communauté Banyamulenge au Burundi. Dans la région des Grands Lacs, souvent marquée par des tensions communautaires et des déplacements forcés, l'exemple d'une cohabitation pacifique mérite d'être salué et analysé. C'est le cas des membres de la communauté Banyamulenge vivant au Burundi, dont le représentant Patrick Kirivura, vice-président de la mutualité Shikama Burundi, a récemment pris la parole. Dans un communiqué de presse publié mercredi 6 août 2025, Kirivura affirme que les Banyamulenge vivent en harmonie avec les populations hautes burundaises, jouissent de la protection et de la sécurité offertes par l'État burundais et bénéficient d'avantages socio-économiques comme tous les autres citoyens. Il a également salué la collaboration entre le gouvernement burundais et le HCR pour faciliter la réinstallation des réfugiés. Comment expliquer les bonnes relations aujourd'hui? Quel type d'avantages ou des conditions favorables les Banyamulenge reçoivent au Burundi? Chers auditeurs, ces questions et autres seront abordées dans ce débat. Et pour comprendre comment les Congolais Banyamulenge évoluent sur le territoire burundais depuis qu'ils y ont trouvé asile et s'y installer dans différents coins du pays, nous avons trois invités autour de cette table ronde. Docteur major de police Pamphile Mabansi, expert en droit des réfugiés. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque.
Bonjour monsieur Evariste et merci pour l'invitation.
Tshisekedi Mulamba, bonjour et bienvenue dans Mosaïque.
Bonjour, merci surtout pour l'invitation. Je suis chargé des questions de l'éducation au centre scolaire congolais.
Merci beaucoup. Nous sommes également avec Rémi Habzalimana, expert en résolution pacifique des conflits et président de l'association Maison Lueur d'Espoir. Bienvenue dans Mosaïque.
Merci beaucoup. Je salue ceux avec qui nous allons échanger, mais aussi les auditeurs. Merci pour l'invitation.
Merci à vous. On avait aimé être avec quelqu'un du ministère de la Justice, mais sans succès. Alphonse Kubimana et Alexandre Ngaruenayo sont de l'autre côté de la vitrine à la réalisation. Vous retrouvez Alain Désiré Boukayeneza, Evariste Nzikobadana. Je suis à l'animation. Rebonjour et bienvenue.
Mosaïque.
La radio Isanganiro traite une fois le mois les questions de la région des Grands Lacs.
Mosaïque.
C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia.
Mosaïque.
Sans trop tarder, ouvrons ce débat par cette première question en faisant le tour de table. Quelle est l'histoire qui témoigne de la présence des Banyamulenge au Burundi? Je pense que Tshisekedi Mulamba en sait plus de la présence des Banyamulenge au Burundi. C'est comme tout autre Congolais qui a fait la guerre en RDC.
Oui, les Banyamulenge vivant au Burundi sont venus en deux grandes vagues. Et la première vague d'arrivée des Banyamulenge au Burundi remonte à l'époque où Kabila père a mené la guerre qu'on a appelée la guerre d'occupation et qui a fini par renverser le pouvoir de Mobutu. C'est au sein de cette guerre-là que beaucoup de Congolais, et surtout beaucoup de Banyamulenge, parce que vivant sur la frontière ici, se sont retrouvés réfugiés au Burundi. Et c'est à cette époque-là que le HCR a ouvert les camps, les nombreux camps de réfugiés que nous avons ici au Burundi. La seconde vague est celle des Banyamulenge qui sont venus, en même temps que d'autres réfugiés congolais, à l'occasion de cette guerre qui n'a pas encore fini.
Une guerre qui n'a pas encore fini, et on a entendu dans le temps qu'il y avait des revendications des Congolais, et on a On a senti des noms de Banyamulenge qui étaient dans le gouvernement congolais sous Kabila. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les Banyamulenge revendiquent leurs droits et...
Au fait, l'appellation Banyamulenge tient à un chef qui s'appelait Mulenge. Et c'est ainsi qu'on a baptisé ces gens-là, les Banyamulenge, ceux-là qui viennent de chez Mulenge. Alors, historiquement, les Banyamulenge, même constitutionnellement, les Banyamulenge sont reconnus dans les textes de loi comme des Congolais d'expression rwandaise. C'est ainsi qu'ils sont appelés depuis même le régime de Mobutu. Pour dire que ce sont des Congolais qui étaient des Rwandais, bien entendu. Leurs ancêtres étaient des Rwandais. Avec le découpage des frontières, ils se sont retrouvés en RDC des Congolais et reconnus comme tels, comme des Congolais. Mais ce qui est un peu étonnant, c'est que ce sont des Congolais qui ont un pied en RDC, un pied au Rwanda. Donc quand il y a des événements historiques, des événements sociaux, tout ça, ils ont une certaine sympathie, une grande sympathie vis-à-vis de leurs origines rwandaises. C'est ainsi que peut-être les Congolais autochtones commencent à douter d'eux. Parce que quand il y a des questions politico-sécuritaires, on les retrouve en train de sympathiser ceux-là qui viennent du Rwanda.
Est-ce qu'on ne peut pas retrouver la jeunesse dans le M23 ou d'autres mouvements qui revendiquent les droits?
Oui, dans le M23, il y a aussi les jeunes Congolais aujourd'hui. Il y a même des politiciens congolais qui exerçaient même au niveau de la présidence aujourd'hui qui sont passés dans l'autre camp. C'est ainsi qu'on parle de la trahison contre le président actuel Tshisekedi. Donc le M23 est constitué principalement par les Rwandais, les originaires du Nord Kivu, qui dans l'ensemble ce sont des Banyamulenge, mais n'empêche qu'on retrouve aussi des Congolais autochtones.
Les Bashi.
Les Bashi, les Barega, les Bandandé, ainsi de suite.
Merci beaucoup. Tu sais qu'il vient de dire que les Banyamulenge, ils ont fui comme d'autres Congolais, experts en droit de réfugiés. Comment ça, on peut expliquer cette tendance de fuir ensemble, cette tendance d'entendre qu'il y a les Banyamulenge et les Bashi qui fuient ensemble et trouvent refuge au Burundi?
Aux yeux des textes internationaux en rapport avec la protection des réfugiés, et toute personne qui a quitté son pays d'origine en raison de la persécution et qui demande la protection dans un autre pays, et devient réfugié. Et cette catégorie de personnes est protégée par les textes internationaux, régionaux et nationaux du pays dans lequel il se trouve. Il n'y a pas de catégorisation, il n'y a pas de distinction entre ce groupe qui a obtenu la protection en tant que réfugié. Mais comme ces personnes gardent leur identité de leur pays d'origine, qu'elles avaient dans leur pays d'origine, et c'est normal qu'une fois arrivés dans le pays d'asile, ces personnes se regroupent suivant leur identité.
Donc, il y a raison d'être des Banyamulenge sur le territoire burundais, comme les Barega, comme les Babembe.
Il y a raison. Sinon, ce n'est pas qu'on a fui son pays d'origine, qu'on perd toute l'identité qu'on avait dans son pays d'origine. On garde cette identité.
Oui. Merci beaucoup. Nous sommes avec Rémi Havzarimana, expert en résolution pacifique des conflits. On a entendu des heurts dans les années passées, même aujourd'hui on les entend. Les Banyamulenge réclament leur existence en RDC, même si qu'ils soient contestés. Avez-vous une rétrospective là-dessus?
Oui, je crois que la spécificité de ce peuple, c'est beaucoup plus lié avec le contexte régional. Notre ami l'avait souligné, nous sommes dans un contexte de découpage colonial qui n'a pas tenu compte des limites sociales, familiales, ce qui fait que au Burundi, comme en RDC, en Tanzanie, vous y trouvez des personnes qui partagent des liens familiaux. Et par là aussi, utilisant la même langue, Le Burundi, si vous allez dans la région d'Obuha, ici en Tanzanie, ils parlent pratiquement la même langue que nous. Et si vous allez au Congo, vous y trouverez aussi
des communautés Barundi.
Exact. Et là, ce n'est donc pas étonnant que de cette manière-là, on trouve une catégorie de population qui parle le Rwanda, parce que justement, lorsque en 1885, les colonisateurs, les futurs colonisateurs, lorsqu'ils se partageaient les territoires, ils le faisaient sur table à l'aide des équerres et règles. Donc, en traçant une ligne, donc, vous ne pouvez pas nécessairement délimiter et tenir compte des populations qui sont ensemble. C'est donc ainsi que nous trouvons des populations qui sont rwandophones en RDC, qui parlent kirundi en RDC, qui parlent kirundi en Tanzanie et ailleurs. Alors ça, c'est donc de cette manière-là qu'effectivement, on a ces problèmes. Alors, comme nous avons les différentes crises que nous avons connues dans la région, qui malheureusement ont souvent un caractère ethnique, c'est donc naturel que ce que ressent le Burundi, le Burundais du Congo, ce sera la même chose que ce que ressent le Burundais du Burundi. Il y a cette connexion ou ce lien qui est tout à fait naturel, et c'est la même chose donc ce qui se fait du côté de Banyamulenge et du côté du Rwanda.
Oui, justement, les Banyamulenge, dans le temps passé, avant même de fuir, ils disaient qu'ils sont contestés en RDC, qu'on les accuse d'être rwandais, et ils ont maltraité, disons, qu'ils sont congolais. Et très récemment, dans un communiqué de presse publié mercredi le 6 août, Kiruhura, Patrick, le représentant de ces Banyamulenge, il a déclaré, il a affirmé que les Banyamulenge vivent en harmonie avec les populations burundaises, qu'ils jouissent de la protection et de la sécurité offertes par l'État burundais et bénéficient d'avantages socio-économiques comme tous les autres citoyens. Tshisekedi Mulamba, vous suivez les Congolais qui vivent dans les camps. On trouve dedans les Banyamulenge, on peut même les trouver dans des zones urbaines.
Oui, les Banyamulenge qui vivent dans les camps, qui sont d'ailleurs majoritaires dans les camps, et ils sont bien gérés, du moins dans le contexte de système éducatif où j'exerce, où je travaille. Et ils viennent même présenter les examens d'État ou d'autres examens de fin de cycle organisés par le ministère de l'Éducation en RDC. Dernièrement, la première dame de la RDC avait même fait un don de 40 000 matelas. Je ne parlais pas de 4 000, mais de 40 000 matelas pour aider les réfugiés congolais vivant au Burundi sans distinction. Donc nous avons des élèves qui sont venus pour la première fois, au moins nous avons eu même des élèves que nous avons inscrits au mois de février, au mois de mars, qui venaient de fuir la guerre au nord Kivu et au sud Kivu, en pleine année scolaire, nous les avons inscrits. Certains n'avaient même pas de documents scolaires, parce que les parents disaient « nous n'avons pas eu le temps ». Et c'est vrai, quand la guerre éclate, elle n'écrit pas gare. On n'a pas le temps d'aller à l'école chercher des dossiers scolaires. Et nous les avons inscrits sur déclaration du niveau d'études qu'ils nous ont présenté, en attendant que leur directeur d'école ou leur préfet des études puisse envoyer des documents scannés. Donc, c'est une compréhension qu'on leur a réservée. Et dernièrement, le HCR nous a versé un montant de 20 millions de francs burundais comme fonds de prise en charge des élèves finalistes qui sont venus présenter l'examen d'État ici à notre centre de passation. Donc tout cela montre qu'au Burundi, via le HCR ou dans un autre contexte, qu'ils sont bien traités. Et vous aviez eu à apprendre il y a quelque temps que l'autorité du ministère de l'Intérieur, à un certain moment, avait interdit à ce que des parcelles puissent être vendues à des étrangers sans que l'autorité à la base n'en prenne connaissance. Et là, on insinuait justement les Banyamulenge, les réfugiés qui s'adonnaient à acheter des parcelles. On sait que quand ils sont ici, le Burundi, c'est un pays de transit en attendant qu'ils aient un pays d'exil. Mais quand un réfugié peut quitter le camp ou peut quitter sa mairie pour aller acheter des parcelles à Gitega ou je ne sais dans quelle autre province, il y a lieu de se demander d'où proviennent ces fonds-là. Et d'où provenaient ces fonds-là avec, pour l'achat des parcelles. Ça signifie qu'ils sont libres de leur mouvement. Ils peuvent traverser, retourner dans leur pays où ils ont fui la guerre, ce qui est interdit par, je crois, la réglementation. Quand ils ont besoin d'argent, ils rentrent au pays, ils vendent des têtes de bétail, ils reviennent, ils font du commerce. À tout moment qu'ils veulent passer la frontière, je pense que le Burundi leur a accordé une certaine large liberté et que c'est un signe d'un bon accueil.
Merci beaucoup. Lubanya Murenge, aujourd'hui, ne se plaignent pas ceux qui ont trouvé refuge ici au Burundi, quel que soit dans le camp, comme Tshisekedi vient de le préciser, et quel que soit dans les zones urbaines, ici à Bujumbura, on les voit... Et juste pleinement de leur droit de réfugié au Burundi, à entendre cette déclaration.
C'est d'ailleurs prévu par la loi burundaise sur l'immigration de 2021. Et cette loi est claire, en son acte 70, les réfugiés se trouvent au Burundi, ils sont libres de mouvement, ils peuvent circuler partout où ils veulent, et ils peuvent choisir librement leur lieu de résidence. C'est normal, donc, si le réfugié voit qu'il peut mener sa vie seul en dehors des camps, il est libre. Mais s'il voit qu'il ne pourra pas survivre en dehors du camp, lui, il sera logé au camp. Donc c'est la loi burundaise qui prévoit ça. D'ailleurs, même la Convention de Genève ne dit pas qu'il faut coûte que coûte mettre les réfugiés dans les camps, les casernés, non. Mais certains pays obligent les réfugiés à rester dans le camp. Ici, j'insinue ce qui se fait en Tanzanie. Là, en Tanzanie, les réfugiés sont obligés d'être logés dans les camps. Mais si au Burundi, la loi burundaise prévoit qu'ils peuvent se choisir librement leur lieu de résidence et ils peuvent circuler librement sur tout le territoire burundais.
Oui. Donc la loi tanzanienne est lacunaire.
Est très dure.
Alors, nous sommes avec Rémi Hafzarimana de la maison Lueur d'Espoir. Comment interpréter cette déclaration de Banyamulenge tout en sachant que leur présence n'était pas toujours facile au Burundi? Ici, on peut prendre comme exemple de la tuerie de Katumba en 2004.
Bon, je crois que, comme je l'avais dit tout au début, nous sommes dans une zone ou région où nous vivons plusieurs crises. Et la crise qui s'abat sur un pays a des répercussions sur son voisin. Ce qui se fait au Congo a des répercussions sur le Burundi et vice-versa. Alors, chaque fois qu'il y a des vagues de réfugiés, je suis content et fier même de mon pays d'entendre qu'ils sont contents de l'accueil qui leur est réservé. Et je crois que c'est de cette manière-là qu'effectivement, la liberté de circulation, s'ils sont dans le respect, le strict respect de la loi, est une importante chose. De deux, s'ils disent eux-mêmes qu'ils sont très bien traités, c'est vraiment ce qu'il faut louer, parce que être réfugié, c'est déjà une bonne partie de tes droits qui te sont ôtés. Mais si dans le pays d'accueil, cette fois-ci, vous vous dites que vous avez ce qu'il faut, c'est déjà une très bonne chose. Mais qu'ils viennent cette fois-ci par rapport à la réclamation de la justice, c'est encore une fois, je crois, de leur plein droit. Mais la question qui est là est celle de savoir effectivement à qui s'adresser. Est-ce que dans leur, comment dire, lorsqu'ils s'adressent au gouvernement, est-ce qu'il y a déjà eu des enquêtes pour savoir qui a fait quoi et pourquoi? Parce que si cet événement se place dans cette sorte de cycle de plusieurs autres événements dont on n'a pas encore eu de réponse, malheureusement, est-ce que c'est celle-là qui a déjà trouvé toutes les réponses? Là, je m'interroge, parce que je sais que nous sommes dans une situation où l'histoire est tellement lente à s'éclaircir, même si des fois, ceux qui connaissent la vérité ne veuillent pas la cracher pour qu'elle soit portée à la connaissance de tout le monde. Mais ce qui est là, c'est que je suis tout à fait d'accord que ce soit leur plein droit de réclamer justice. Mais la question est-ce que on a déjà atteint ce niveau qui permet à ce que l'enquête soit sérieusement et profondément menée lorsque on est encore dans une période de crise entre ces pays, effectivement, où s'il faut identifier les auteurs de ce crime. Et si vraiment on doit rentrer au Congo, est-ce que maintenant les mouvements sont assez assainis pour qu'effectivement ces investigations soient menées dans un climat de scientificité acceptée? C'est tout ça, les interrogations qui peuvent être posées, et s'ils trouvent réponse, je crois que ça devrait aller.
Mais aujourd'hui, cette communauté Banyamulenge affirme et confirme qu'elle mène une vie saine au Burundi. Comment, là, on peut s'interroger de comment les communautés burundaises accueillent-elles ces réfugiés banyamulenge ou étrangers? Selon vous, le Burundi, les Burundais accueillent bien les étrangers. On est hospitalier.
Voilà, vous l'avez bien dit. En fait, ce n'est pas que les banyamulenge, c'est toute personne qui est étrangère au Burundi. En général, j'ai chaque fois entendu, et cela a été plusieurs fois répété, que le peuple burundais est un peuple accueillant. C'est donc pas seulement les Banyamulenge, mais c'est d'autres peuples. Et résumons, les Banyamulenge sont venus dans cet état de besoin. Je crois que c'est pas seulement les Banyamulenge. Si les autres Congolais devraient s'exprimer aussi, je ne doute pas qu'ils diraient la même chose, parce que je ne crois pas que ce soit une spécificité particulière orientée seulement vers ce peuple Banyamulenge, mais c'est vraiment ce bon point et caractéristique burundais d'accueillir positivement toute personne qui est dans le besoin, et surtout s'il est étrangère.
Mosaïque.
La radio Isanganiro traite une fois le mois les questions de la région des Grands Lacs.
Mosaïque.
C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia.
Mosaïque.
Je rappelle à ceux qui viennent de nous capter qu'ils sont à l'écoute de l'émission Mosaïque portant aujourd'hui sur comment vivre ensemble et cohésion sociale. L'exemple étant celui de la communauté Banyamulenge au Burundi. Mercredi 13 août 2025, la communauté Banyamulenge a commémoré le 21e anniversaire du massacre d'Ogatumba survenu dans la nuit du 13 au 14 août 2004 qui a coûté la vie de 160 réfugiés Banyamulenge congolais. Mais jusqu'à aujourd'hui, pas de justice contre ceux qui ont commis ce crime. Les détails, c'est dans ce reportage de Jean-Marie Mayonk.
Vêtus de noir et alborin, des photos des personnes massacrées, les familles Banyamulenge ont exprimé leur tristesse et leur douleur à l'occasion de la 21e commémoration du massacre d'Ogatumba perpétré le 13 août 2004. Ce jour-là, plus de 160 personnes ont été tuées et plus de 200 blessés dans la zone d'Ogatumba dans un cas de transit d'ACR où étaient installés des réfugiés Banyamulenge ayant fui les violences en République démocratique du Congo. Lors de cette commémoration, des gerbes de fleurs ont été déposées après plusieurs témoignages poignants de rescapés. Le représentant des familles des victimes, Lazare Rukundwa, a rappelé que 21 ans après les faits, les familles attendent toujours que justice soit faite et que les responsables soient traduits en justice. Il a insisté sur la volonté de la communauté Banyamulenge de continuer à plaider pour que justice et réparation soient rendues.
Il n'y a pas la volonté politique de la communauté internationale et aussi de notre propre pays, la République démocratique du Congo et même le Burundi. Nous pensons que le Burundi peut faire beaucoup et peut faire mieux parce que c'est là où le massacre a été commis. Et le Burundi a fait beaucoup pour nous protéger, pour nous sécuriser et pour nous donner l'asile. Non seulement ils le font ici, ils le font même aussi au Congo. Nous avions vu des actes qui protègent nos populations. Mais en ce qui concerne la justice de ces victimes d'Ogatumba, nous pensons que la communauté internationale, le Burundi inclus, la RDC inclus, les Nations Unies qui avaient abrité le réfugié, ils doivent montrer la volonté politique. Ils doivent montrer cette volonté qu'ils veulent que la justice soit faite.
Il a également souligné que malgré les nombreux rapports produits par la mission des Nations Unies en RDC, MONUC, l'opération des Nations Unies au Burundi, ONUB et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, aucune mesure concrète n'a été prise jusqu'à présent. Les familles des victimes appellent le gouvernement burundais à tout mettre en œuvre pour identifier et juger les auteurs de ce massacre et exhorter l'Organisation des Nations Unies à honorer sa promesse de justice en poursuivant les responsables et leurs complices.
Voilà, la crise éclate en RDC. Voilà, les Banyamulenge fuient les années 2004. On les installe à Gatumba, à 10 km de la frontière entre le Burundi et la RDC. L'expert en droit de réfugiés. Avant qu'il n'y ait lieu ce massacre, vous trouvez normal que des réfugiés fuient leur pays, fuient la guerre, fuient les combats, et on les installe à 10 km de leur frontière?
C'est très étonnant. Et je me demande pourquoi ce camp a été installé tout près de la frontière, alors que les textes internationaux, je souligne ici la convention de l'OIOA, régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, en son article 2, paragraphe 6, cet article stipule que des réfugiés doivent être installés à une distance raisonnable de la frontière de leur pays d'origine. Et curieusement, pour ceux de Katumba, les Banyamulenge qui ont été massacrés au cours de cette période, ils étaient juste tout près de la frontière. Et je me demande pourquoi on a installé ce camp là-bas. Sinon, pour installer le camp, et il y a collaboration entre l'OAS et le pays. Et le plus souvent, le pays donne le terrain sur lequel le camp est construit et l'OAS peut apporter tout le matériel nécessaire pour la construction du camp. Et voilà, curieusement, ce camp a été construit tout près de la frontière et le drame a été commis.
Le drame a été commis. Il y avait aussi lieu de les protéger. Tout près de ces réfugiés, il y a le camp Gatumba, le camp militaire de Gatumba. Mais tout le monde s'interroge, se demande pourquoi le camp n'a pas été protégé.
Et normalement, il est dans l'obligation du pays qui accueille les réfugiés de les protéger. Donc, c'est d'ailleurs ces réfugiés cherchent protection. En quittant le pays d'origine, c'est pour chercher la protection dans l'autre pays, d'Asie, dans le pays d'accueil.
Dans le pays hôte.
Oui. Et c'est le principe. Les camps doivent être protégés. Mais ce n'est pas actuellement seulement. Et dans d'autres pays, sous d'autres cieux, et de telles attaques aux camps ont eu lieu. Même au Congo, il y a les camps qui ont été attaqués au cours d'une certaine période. Donc ça arrive souvent. C'est pour cela que le comité exécutif du HCR appelle toujours les États à protéger les camps et pour qu'il n'y ait pas des attaques de cette sorte. Sinon, les réfugiés sont venus pour chercher la protection. Il faut qu'ils aient la protection cherchée. La protection qu'ils ont manquée dans les pays d'origine. C'est le principe.
C'est le principe.
Oui.
Alors, aujourd'hui, les rescapés réclament toujours justice. Ça fait déjà 21 ans.
Oui.
Et là, qu'est-ce que le droit, la convention de quel est le prescrit à ce sujet de la convention de Genève?
La convention de Genève ne dit pas grand-chose sur cela, mais le principe est que si on lit le pacte international relatif aux droits civils et politiques, et toute personne a droit à la vie. C'est à l'article 6 qui stipule que toute personne a droit à la vie. Et si on vient d'ôter la vie à quelqu'un, il faut qu'il y ait établissement de responsabilité. Et toute personne a droit à ce qu'il y ait justice ou à ce que la justice soit faite sur le crime qui a été commis ou bien sur les violations des droits d'homme qui ont été commis. C'est le principe. Et donc si les Banyamulenge réclament justice, je crois que c'est dans leurs droits. Et le pacte relatif aux civils politiques prévoit ça.
On a entendu le représentant de Banyamulenge qui prononçait le discours. Il dit l'ONU n'a rien fait, la RDC n'a rien fait, le Burundi n'a rien fait. Aujourd'hui, après 21 ans, qui doit s'auto-saisir? Et là, qu'est-ce qui doit être fait?
Je ne dirais pas que rien n'a été fait sans avoir consulté la procédure qui a eu lieu juste après ce massacre. Je crois que et dès qu'il n'a été fait sans avoir consulté toute la procédure qui a été mise en place juste après le carnage, et serait, il y a risque de tomber à côté. Mais en tout cas, je crois qu'au niveau des Burundi, et juste après le massacre, un dossier a été ouvert. Le crime ne peut être commis comme ça sans qu'il y ait un dossier ouvert au niveau du parquet. mais comme je n'ai pas le numéro de ce dossier, ou bien comme je n'ai pas d'infos là-dessus, je n'ai pas pu chercher des informations là-dessus, j'aimerais ne pas me prononcer beaucoup sur ça.
Justement, oui. Le représentant de Banyamulenge, ce jour de la commémoration, oui. Il dit « Oh, il y a quelqu'un qui a revendiqué l'attaque ». Et il a indiqué que c'était le porte-parole du mouvement par le Parti FNR d'alors qui combattait le pouvoir de Bujumbura.
Là aussi, apparemment, juste après, c'est lui qui avait accepté que c'est leur mouvement qui avait commis l'attaque, a refusé par après que ce n'était pas lui. C'est pour cela qu'on risque de se tromper, entrer dedans. Alors qu'on n'a pas suivi le dernier dossier depuis le début, même jusqu'à l'heure actuelle, il y a risque de se tromper. Sinon, des fois, en rapport avec la justice, s'il y a crime commis, automatiquement, il y a un dossier ouvert. Je sais qu'au niveau de la procédure, au niveau des parquets, s'il y a crime commis, il y a un dossier ouvert et la procédure se poursuit petit à petit jusqu'à mettre la main sur les auteurs d'un tel crime. C'est comme ça que ça se fait normalement. Oui.
Sinon, la Convention de Genève n'en dit rien.
Pour la Convention de Genève, ils ont dit que il est souligné que les réfugiés ont droit d'accès à la justice. Donc les réfugiés ont droit d'avoir accès à la justice. C'est leur droit d'avoir accès à la justice. Si jamais il y a quelque chose que ces réfugiés réclament, ils ont droit d'avoir accès à la justice dans le pays dans lequel ils se trouvent. Oui.
Merci beaucoup pour cet éclairage. Tshisekedi Mulamba, il était sur le territoire national, si je ne me trompe. Il apprend avec moi que les Congolais Banyamulenge, qui étaient dans le camp de Katumba, ils ont été massacrés. Quel a été le sentiment d'entendre que des Congolais qui venaient de fuir sont morts juste à la frontière burundo-congolaise.
La première question que je m'étais posée était de savoir comment ces Congolais-là se sont retrouvés dans cet espace-là. Parce que sachant que Doshanik, au chef-lieu de Mulongwe là-bas, il y a 25 kilomètres. Vous comprenez qu'entre Gatumba et Uvira, c'est presque la moitié de cette distance-là. Alors comment est-on arrivé à installer ces gens à cet endroit-là? Sachant que la loi exige qu'à ce que des réfugiés soient installés dans une profondeur d'au moins 150 km de leur pays d'origine. Donc, c'est une interrogation qu'on s'est faite. Peut-être qu'il y a des procédures pour éloigner les gens. Il y a peut-être des camps de transit pour finir par les installer ailleurs, dans des espaces plus profonds. Bon, ça, je suis désarmé de pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a entouré cette circonstance-là. Cependant, partant de ce que M. Pamphile vient de dire là, dire qu'il y a eu des revendications. Mais les revendications, ça, on les suit dans plusieurs pays, même en RDC, même dans d'autres pays, il y a des situations de guerre où il y a des attaques. Une partie peut revendiquer une attaque sans que cela soit véridique. Question de faire fléchir l'autre partie et montrer qu'on est puissant et qu'on a tout intérêt à démarrer les négociations. Donc, je ne peux pas affirmer ni infirmer ce genre de questions. Seules les autorités politico-juridico-sécuritaires sont en droit ou en voie de savoir s'il y a eu des procédures qui ont été déclenchées par rapport à ça.
Aujourd'hui, 21 ans après, pas de lumière, pas de justice à ce sujet. Et les Banyamulenge revendiquent toujours la justice.
Oui, la revendication, c'est un droit pour quiconque, mais seul, comme je viens de le dire, c'est seules les autorités autorisées à connaître ce dossier-là peuvent dire pourquoi 21 ans après, il n'y a pas. Est-ce que réellement, il n'y a pas quelque chose qui a été fait? Quand quelqu'un est en train de revendiquer quelque chose, même dans des situations autres que la guerre, souvent on dit bon, les autorités ne font rien. Peut-être qu'il y a des dossiers en instruction et on ne sait peut-être pas l'étape à laquelle se trouve l'instruction de ce dossier-là. Donc je suis désarmé pour pouvoir expliquer pourquoi 21 ans après, rien n'a été fait. Si réellement rien n'a été fait, je suis dans l'ignorance des choses.
Peut-être qu'il y a un manque de volonté.
Je ne sais pas.
Merci beaucoup, Tshisekedi Moulamba. Nous sommes avec Rémi Havdarimana, expert en résolution pacifique des conflits. Voilà, les conflits éclatent en RDC, les Banyamulenge fuient, mais ils sont placés à 10 km de la frontière de leur pays d'origine et ils sont massacrés.
Oui, comme les prédécesseurs l'ont dit, la question qu'il faut se poser est celle de savoir dans quelles conditions ces réfugiés ont été installés dans une zone plus proche que leur pays d'origine. En principe, nous savons, je l'avais dit tout au début, que nous sommes dans un contexte où les crises sont beaucoup plus influencées par le caractère ethnique. Mmh. Et là, c'est assez complexe parce que justement, des fois, dans la compréhension du réfugié, son souhait, même réfugié, c'est de revenir le plus tôt possible dans son pays d'origine. Mmh. Alors, la tentation est de s'installer plus proche de la frontière pour qu'effectivement, aussitôt que l'accalmie est là, il retourne. Mmh. Mais encore une fois, comme nous sommes dans un contexte de pays où les activités du HCR ou du pays qui reçoit les réfugiés ne parvient pas toujours à satisfaire tous les besoins des réfugiés. Mmh. La tentation est d'être à une distance raisonnable qui permet parce que si vous avez un besoin et que les possibilités de glisser un peu et rentrer à la maison, récupérer quelque chose qui puisse vous être utile dans les conditions où vous vous trouvez, cela soit possible. Mmh. Et je crois donc que c'est ce qui pourrait, je dis bien pourrait, justifier le fait que ce groupe se soit positionné à cet endroit-là. Mmh. Mais la question qui est là, nous savons que les réfugiés sont gérés en même temps par l'OHCR et le pays qui accueille ces réfugiés. Mmh. Je m'interroge donc comment le gouvernement burundais et l'OHCR et accepter que les réfugiés congolais soient positionnés à 10 km de la frontière. Donc c'est encore une fois un contexte que je ne maîtrise pas, mais je peux me dire que nous sommes dans une période de crise. En 2004, souvenez-vous-en, le Burundi avait déjà signé les accords d'Arusha. C'est en 2003 que le Burundi va signer les accords de cessez-le-feu avec le CNDD-FDD, mais ce n'était pas le dernier mouvement qui était armé, qui était en train de combattre le gouvernement.
Il y avait donc, le palpé au Téfénel qui était toujours derrière.
Nous, vous comprenez donc qu'en ce moment-là, le Burundi est aussi en guerre. Il y reçoit les réfugiés, mais il a aussi une branche armée qui le combat. Je ne sais pas vraiment, c'est pas pour justifier le fait que ces personnes-là soient placées juste à la frontière de leur pays d'origine, mais c'est pour dire qu'on est dans une guerre régionale et les réfugiés se meuvent aller dans un pays aussi en guerre. Est-ce que c'était peut-être pas la priorité du Burundi? Je ne peux pas répondre. Est-ce parce que justement ce contexte était dans ce fait que les Manyamulenge effectivement se disaient installons-nous le plus proche possible pour que si la calmie revenait, on soit en mesure de revenir sans aller plus loin. C'est donc de toutes ces réponses auxquelles nous ne savons pas apporter de solution ou réponse que la situation se trouve. Maintenant, après 21 ans, ils réclament justice. C'est leur plein droit, je l'avais dit et j'y reviens. Mais la question qui est là, est-ce que de là à aujourd'hui, les questions de tension entre nos pays ont déjà trouvé des réponses pour qu'effectivement, peut-être, le gouvernement burundais et le gouvernement congolais se mettent ensemble pour élucider toutes ces interrogations et savoir qui est finalement qui? Qui a fait quoi dans ce malheureux cas? Alors, c'est dans tout ça donc où on se dit, l'expert l'a déjà dit, s'il y a des tueries ou un cas, il y a un dossier qui est ouvert. Je ne doute pas que le dossier ait été ouvert, mais la question est la progression, l'évolution de ce dossier, il est comment? Est-ce qu'il n'est peut-être pas un peu attardé ou alourdi par le processus du fait que ce qui se fait au Congo aujourd'hui ne permet peut-être pas d'aller approfondir les réponses à la question. Ou alors, encore une fois, ce qui se fait au Burundi, effectivement, la question est là. Sinon, le fait de dire que ça a été réclamé par un tel ou tel, c'est encore une fois revenir sur ce que l'on appelle actuellement la guerre des médias, où quelqu'un peut déclarer ceci parce qu'il s'attend à ce que cela ait des répercussions sur l'autre camp ou sur la communauté, tant nationale qu'internationale. Mais faudrait-il qu'il y ait des processus délucidés et se rassurer qu'effectivement ce qui a été dit correspond à la réalité.
Ouais. Nous sommes dans le dernier quart d'heure de l'émission Mosaïque. Nous entamons des questions qui sont liées à ce qui doit être fait pour que la communauté Banyamulenge puisse continuer à vivre paisiblement au Burundi malgré les problèmes qui sont signalés dans leur pays d'origine, quelquefois fondée sur les ethnies. Tshisekedi Mulamba, malgré la déclaration de la communauté Banyamulenge vivant au Burundi, les Banyamulenge sont toujours taxés d'être des Rwandais. C'est le même constat, c'est la même interprétation que vous faites à ce moment.
Je l'avais déjà dit au départ, bon, si on les appelle les Rwandais, c'est parce qu'effectivement ils parlent le Kinyarwanda. Mais plutôt, je crois que historiquement, ce sont leurs ancêtres qui sont des Rwandais, mais que eux, par l'histoire, ils sont devenus des Congolais, comme on les appelle juridiquement, des Congolais d'expression rwandaise. Et au Burundi, les Banyamulenge vivent dans une mutualité autant que les autres tribus ou ethnies vivant au Burundi, à la seule différence que lorsqu'ils organisent leurs réunions, leurs rencontres, c'est peut-être à l'insu de l'autorité de la mission diplomatique qui est l'ambassade au Burundi. Les autres mutualités demandent une autorisation d'organiser des réunions. Et souvent, c'est au sein de notre institut où je travaille. Ils écrivent une lettre, ils annoncent qu'à telle date, nous viendrons organiser une réunion de mutualité pour traiter des questions sociales, des questions d'entraide, des questions économiques. Mais je n'ai jamais vu des Banyamulenge nous adresser une correspondance pour demander des locaux en vue d'organiser ces réunions-là. Alors, ces rencontres se font où? Nous sommes dans l'ignorance des choses. Donc, la particularité des Banyamulenge, c'est que ils sont, ramassés sur eux-mêmes. On ne sait pas exactement socialement comment ils vivent, leurs échanges, ainsi de suite. Et souvent, ils aiment beaucoup. Ils parlent d'autres langues, le Lingala, le Swahili, mais le Kinyarwanda, c'est leur langue privilégiée. Je pense que c'est pour cette question linguistique-là qu'on les appelle des Rwandais. Mais historiquement, je crois que ce sont des Congolais, mais qui s'expriment en Kinyarwanda.
Et qui ne doivent pas être écartés.
Oui, qui ne devraient pas s'écarter des réalités sociopolitiques de la RDC. Donc, ce serait étonnant. Il est toujours étonnant que quand il y a des événements politiques rwandais, qu'ils soient là-bas au lieu de rester chez eux en RDC. Et c'est cela qui fait que peut-être que les Congolais d'origine congolaise leur prêtent peut-être cette nationalité rwandaise. Parce qu'avant ces dernières guerres, ils n'avaient pas de problème en RDC. C'est comme les Burundais. Les Burundais, moi, quand je faisais encore l'école primaire, après 72, il y a des réfugiés burundais qui étaient à Bukavu. Mais on ne savait pas distinguer un Burundais d'un Rwandais. On les appelait tous des Rwandais parce qu'avant 72, on connaissait les Rwandais, on ne connaissait pas les Burundais. Donc, même aujourd'hui, je pense que c'est aujourd'hui seulement qu'on peut distinguer un Munyamulenge ou un Rwandais d'un Burundais. C'est justement de par leur comportement. Je crois que c'est ça la raison.
Alors, qu'est-ce qui doit être fait pour qu'il y ait l'intégration sociale de ces Banyamulenge, d'autres Congolais, qu'ils aiment vivre seuls, qu'ils n'aiment pas s'associer à d'autres Congolais qui sont soit au Burundi ou à une RDC? C'est peut-être leur culture.
Je ne pense pas qu'il y ait une culture d'isolement. C'est une attitude peut-être que les gens adoptent, mais il n'y a pas de culture qui prêche l'isolement. Il revient à eux, effectivement, maintenant, d'approcher les autres, d'échanger et de montrer qu'ils ne sont pas nuisibles à d'autres communautés.
Pamphile Mavansi, on évoque le fait que les Congolais, même qu'ils soient en exil, ils constituent leur groupe, ils n'aiment pas vivre avec d'autres, mais ils ont indiqué qu'ils vivent harmonieusement au Burundi.
Et comme je l'ai déjà souligné, toute personne qui se trouve en dehors de son pays d'origine et qui est venu pour demander la protection, parce qu'il a manqué la protection dans son pays d'origine, il devient automatiquement réfugié. Et la Convention de Genève de 1951 interdit la discrimination entre les réfugiés. Donc, cette catégorie de personnes qui demandent la protection doit être protégée en tant que réfugié. Et il y a beaucoup de textes, Convention de Genève, Convention de loi nationale, si je parle du côté de l'Afrique, ces textes protègent cette catégorie de personnes. Alors, les identités qu'elles ont dans le pays d'accueil, ce sont des identités qu'elles avaient dans le pays d'origine. Et cela n'a rien à voir avec la protection. On ne peut pas distinguer les réfugiés en fonction de leur identité pour ne pas leur octroyer la protection voulue ou la protection qu'elles devraient bénéficier. Non, elles doivent bénéficier de la même protection, peu importe l'identité que ces personnes ont. D'ailleurs, même la Convention de Genève prévoit que la plupart de ces personnes fuient la persécution en raison de leur race, religion, nationalité et opinion politique. Donc, c'est qu'il y a identité dans les motifs de persécution, les motifs de fuite. Et ces personnes gardent leur identité même dans le pays d'accueil. C'est pour cela que si dans le pays d'accueil, on retrouve des groupes de ces réfugiés, des groupements en fonction de l'identité, cela n'a rien à voir avec les protections. Sinon, toutes les personnes qui sont protégées en tant que réfugiés doivent bénéficier de la même protection et il ne devrait pas y avoir de discrimination comme le prévoit l'article 3 de la Convention de Genève.
Merci beaucoup. On évoquait tout à l'heure que les Congolais, surtout les Banyamulenge, ils ne s'associent pas à d'autres Congolais. N'est-ce pas vraiment l'origine de qu'ils soient contestés en RDC? Quelles leçons à tirer de l'exemple du Burundi pour d'autres pays, notamment la RDC? Au Burundi, on avait des chicaneries liées à l'ethnie, mais des chicaneries qui n'existent plus aujourd'hui. Est-ce que le processus que les Burundais ont enclenché pour cette unité nationale peut servir en RDC pour que les Banyamulenge, les Bashi, ils partagent la culture congolaise?
Merci de la question. D'abord, dire que les Banyamulenge s'isolent, c'est peut-être un point de vue, parce que généralement...
Ce n'est pas ce fait qu'ils soient appelés Rwandais. Vous êtes Rwandais, retournez au Rwanda.
Je ne crois pas que cette situation soit vue de cette manière-là par Sébania Mourenge, par exemple, parce que les jugements que l'on fait à l'endroit de telle catégorie ou telle autre est peut-être, disons, vu ou revu autrement en considérant les contextes. Je crois que si l'on prenait le cas du Burundi, comme vous le dites, et qu'on prend la catégorie des Batois, qui dans plusieurs contextes se retrouvent isolés et se retrouvent effectivement dans son contexte de se retrouver eux-mêmes ensemble, si vous leur dites ne vous isolez pas, ils vont dire mais on ne sait pas comment faire, on voudrait bien. C'est donc d'abord reconnaître cet état de victime qui peut avoir plusieurs origines. Mais le fait de s'isoler, je crois qu'eux-mêmes, ils ne sont pas contents de cela. Donc il y a une cause quelque part. Mais cette cause-là, alors, c'est à ce niveau où je crois où il faut faire une sérieuse réflexion. Parce que c'est quelque chose qui vient dans le temps. Il l'a si bien dit, à un certain moment, ça ne posait pas de problème. Si vous entrez dans les annales historiques du Congo, je sais que, par exemple, un chef de cabinet du président Mobutu était Munyamulenge. Et à cette période-là, il n'était pas le seul. Il y avait plusieurs personnalités dans les institutions étatiques, n'est-ce pas? Alors, ce n'est pas que cela. Même après la prise de pouvoir par Kabila père, oui. Je sais qu'il y avait même des vice-présidents au niveau des institutions. Mais que ce problème vienne avec une autre forme à une certaine période après, c'est-à-dire qu'il faut creuser pour effectivement savoir qu'il en est la raison. Alors, comme vous avez pris le cas de Burundi, le Burundi a signé les accords d'Arusha en 2000 et ça a été un processus qui a été enclenché, qui a pris quand même quelques années parce que ça a commencé, je crois, en 1996. C'est à ce moment-là que les négociations discrètes ont commencé. Mais là, on a creusé et il y a des équipes qui ont travaillé pour que finalement, à un certain moment, on arrive sur des points de consensus qui ont permis que l'on avance. Alors, les négociations, est-ce qu'elles sont terminées pour le cas du Burundi? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, le document de l'accord a une deuxième partie des réserves. Ce qui sous-entend que les contacts, les discussions, les échanges qui doivent se faire sur le social, c'est un processus qui, pour moi, doit être permanent. Parce que vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, nous nous convenons sur cela et c'est fini. C'est quelque chose de dynamique. Parce que demain peut survenir d'autres éléments qui font que le contexte ne soit pas lu et vu de la même manière par tout le monde. Alors, il faut que ce soit permanent. Alors, je crois donc, même au niveau du Congo, le problème est posé. Les conséquences sont là. Mais la question est, est-ce que les Congolais parviennent-ils à créer un cadre d'échange, de discussion, de dialogue, pour qu'effectivement, ce ne soit pas les autres Congolais qui décrivent la situation des Banyamulenge. Que les Banyamulenge s'expriment eux-mêmes et disent comment ils vivent la réalité et que les Congolais aient cette vision des Banyamulenge, parce que le problème se situe au niveau où c'est vous qui me dites et qui me qualifiez de qui je suis, de comment je suis, alors que je suis là. Pourquoi ne pas me permettre que je m'exprime? Je dise ce que je ressens et je dis pourquoi je me comporte tel que je me comporte. Là, alors, vous voyez, est-ce que ça vous nuit? Ou il y a moyen de trouver un terrain d'entente? Donc, cela se ferait au Congo, se ferait au Burundi, se ferait au Rwanda, se ferait un peu partout. Chaque fois qu'il y a crise, c'est que malheureusement, il y a manque de terrain d'entente. Et le terrain d'entente ne se trouve autrement que par le dialogue. Vous pouvez d'abord vous battre, vous entretuer, ainsi de suite, mais la fin, c'est toujours le dialogue. Alors, le problème, donc, c'est que souvent, malheureusement, on attend que plusieurs têtes tombent pour que l'on revienne sur ce par quoi on aurait dû commencer. Alors, chaque fois qu'il y a un problème, donc, ce n'est pas seulement pour le cas de Banyamulenge, c'est pour tout le monde, que le cadre de dialogue se présente et que les gens s'expriment, que cette personne, que vous ne vous présentiez pas nécessairement comme mon porte-parole, alors que je ne vous ai pas délégué, laissez-moi me prononcer et écouter, je peux dire ce qui ne vous plaît pas, mais si vous vous exprimez aussi, là, il y a toujours un moyen de trouver un terrain d'entente et les pressions diminuent, la tension diminue et chacun se retrouve, se dit au moins je suis écouté, au moins mon problème est connu, j'attends sa réaction. Et on est au degré suivant.
Peut-être qu'avec les accords de principe de Washington et de Doha entre les parties congolaises en conflit, la solution sera trouvée. Tshisekedi Mulamba, tout à l'heure, vous avez évoqué qu'il y a dans la tête des Banyamulenge à avoir leur territoire. L'exemple burundais peut servir de modèle pour que les Congolais soient soudés, qu'il n'y ait plus les Banyamulenge, qu'il n'y ait plus un tel tribu, une ethnie qui veut son territoire.
Oui, tout dépendra maintenant du respect de l'application des accords de Washington ou de Doha. Et cela dépend des acteurs eux-mêmes. Les politiciens, eux, signent les accords, mais la mise en application, ce sont maintenant les acteurs, les personnes actives dans ce conflit là-bas. Et sinon, ne pas respecter les clauses du contrat, c'est une forme de provocation de l'autre partie, et que ça serait peut-être une guerre perpétuelle, de semblant de paix par ici pendant quelques temps, et puis la reprise de la guerre. Oui, le Burundi, c'est un modèle, pourvu que ça dure aussi. Donc, je crois que les parties en conflit doivent copier ce qui se passe ailleurs quand il y a une situation de paix et faire de sorte que le passé souffrant ne revienne plus.
Mmh. Espérons que la paix reviendra.
Nous l'espérons.
Pamphile Mbabazi, pour qu'il n'y ait plus un réfugié, il faut qu'il y ait la cessation de la guerre, des hostilités, des guerres fratricides.
Pour qu'il n'y ait plus réfugié, il y a beaucoup de choses à faire. Mmh. D'abord, il faut réduire les motifs qui conduisent les personnes à quitter les pays d'origine. Et le plus souvent, c'est la guerre. Dans nos pays, surtout dans les pays africains, c'est la guerre qui provoque la fuite. Et dans les autres pays, surtout en Europe ou dans les autres pays, ce sont les cinq motifs qui sont énumérés dans la Convention de Genève. La persécution en raison de la race, la religion, la nationalité, l'appartenance au groupe social ou les opinions politiques. Alors, si on élimine tous ces motifs qui conduisent des gens à quitter les pays d'origine, là, on n'aurait plus de réfugiés. Aussi, il y a une autre façon de mettre fin aux réfugiés, c'est faire comme on a fait en Europe, l'espace Schengen. Là, tout ce qui se trouve dans cet espace, tu ne peux pas quitter un pays pour aller dans un autre et dire que tu es réfugié. Non. Et ils ont mis un même système de protection. Et les citoyens sont protégés de la même sorte. Alors, si tu n'as pas la protection dans ton pays, tu vas vivre dans un autre pays, tu es le bienvenu. Et là, tu n'es pas réfugié. Non, tu vis comme membre de cette communauté, espace Schengen. Et si jamais, ici en Afrique, avec l'EAC, East African Community, on mettait ensemble un même système de protection de la population, et là, alors, on n'aurait plus de réfugiés. Mm-hmm. Et en Burundi, s'il voit que Burundi est menacé, il pourrait aller vivre facilement en Tanzanie, mm-hmm. sans rien s'inquiéter, au Rwanda, en Ouganda, comme ça, sans rien s'inquiéter, comme on a fait en Europe. Mais là, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut mettre ensemble, dans tous ces pays, un même système de protection pour que la protection soit la même dans ces pays qui forment cette communauté.
Merci beaucoup. Voilà, c'est par ici que se referme cette émission. Mais avant de la boucler, rappelons que l'on échangeait sur comment vivre ensemble et cohésion sociale. L'exemple de la communauté Banyamulenge au Burundi, qui a vu la participation de docteur et major Pamphile Mbabazi, expert en droit de réfugiés. Merci d'être venu dans Mosaïque.
C'est moi qui vous remercie.
Tshisekedi Mulamba, conseiller chargé des questions liées à l'éducation au centre scolaire congolais de Bujumbura. Merci à vous aussi d'être venu dans Mosaïque.
Merci de m'avoir invité. Je remercie aussi les auditeurs et les spectateurs qui suivent cette émission.
Mmh. Rémi Havzalimana, expert en résolution pacifique des conflits et président de la maison Lueur d'Espoir. Merci à vous aussi d'avoir répondu présent à notre invitation.
C'était un plaisir. Merci à ceux avec qui nous avons partagé le dialogue, mais aussi les auditeurs qui nous ont suivis.
On avait aimé être avec quelqu'un du ministère de la Justice, mais sans succès. Alphonse Kopgimana, Alexandre Patrick étaient de l'autre côté de la vitrine. Alain Désiré Boukeneza était à la réalisation. Evariste Ndikobananga, j'étais à l'animation. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes.
Mosaïque.
La radio Isanganiro traite une fois le mois les questions de la région des Grands Lacs.
Mosaïque.
C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia.
Mosaïque.